La principale conséquence du retour du pape à Rome, c'est le rétablissement de la souveraineté pontificale sur une partie des États pontificaux qui avaient été annexés par un décret de Napoléon de mai 1809. Ça, c'est quelque chose de tout à fait important. Napoléon s'est emparé de la personne du pape dans la nuit du 5 au 6 juillet 1809, mais surtout, il avait un mois auparavant privé le Saint-Siège de la souveraineté sur ses États. Et la première chose que fait Pie VII quand il rentre à Rome en 1814, c'est de réaffirmer la souveraineté du Saint-Siège, d'une part sur Rome et d'autre part sur l'Ombrie. Il n'a pas encore à cette époque-là recouvré la souveraineté sur les marches et les légations qui avaient été cédées par Pie VI en 1796 au traité de Tolentino.
Quelle valeur donner à son retour? Est-ce que c'est un retour triomphal? Est-ce qu'il est bien accepté par la population qui, malgré tout, a goûté, bon gré mal gré, à une nouvelle administration qui a pu apercevoir d'autres idées, une autre perspective, en tout cas politique, du gouvernement de leur territoire? Ou bien, au contraire, est-il conspué ou tout au moins accepté silencieusement par la population romaine?
En Italie, il reçoit un accueil absolument triomphal, notamment dans les villes où il est passé, déjà à Savone, mais aussi à Imola, son ancien diocèse, où il ira célébrer les fêtes de Pâques, mais aussi à Cézanne, qui est sa patrie, où il reste près de 15 jours. Et ce sera exactement la même chose à Rome. En fait, par-delà la venue du pape lui-même, ce que fêtent les Italiens, c'est la fin de l'occupation française en Italie. Et il y a des témoignages très précis de ce grand soulagement des Italiens de voir Murat le voleur, Murat le français, enfin chassé d'Italie. Car il faut bien voir que le pape a refusé de répondre favorablement à la demande de Murat, qui lui proposait finalement de rester pape sans recouvrer la souveraineté des États pontificaux. Il a tenu bon, et c'est de ce fait-là qu'il a pu rentrer en triomphateur dans Rome le 24 mai 1814, en ayant obtenu des alliés, et notamment d'Autriche et d'Angleterre, le rétablissement de la souveraineté pontificale.
Et sur sa manière de gouverner?
D'un côté, le pape a rétabli, si on regarde les premiers grands édits, l'édit de Cézanne par exemple, on ne parle que de restauration. On rétablit la souveraineté pontificale, on rétablit les tribunaux anciens, on rétablit le droit ancien, on abolit le code civil, on fait foin de ce qu'avaient apporté les Français. Mais en réalité, le gouvernement de Pie VII est assez modéré. Par exemple, il ne revient pas sur l'aliénation des biens nationaux. Il ne revient pas sur l'achat des biens nationaux ou des biens d'église qui avait été fait par un certain nombre de personnes.
Est-ce que cet épisode-là, l'emprisonnement de Pie VII, la fin des États pontificaux, en tout cas pour une période donnée, est-ce que ce n'aura pas tout de même des conséquences pour la suite, pour les pontificats suivants, et notamment celui de Pie IX?
Il est hors de doute que le sentiment national italien s'est trouvé, en quelque sorte, dynamisé par les proclamations de Bentinck en mars 1814, après son débarquement à Livourne en février, par les proclamations de Murat également, par l'écho qu'aura eu l'idée nationale italienne dans l'opinion publique italienne. Les carbonari qui se sont manifestés sous Léon XII, sous Pie VIII, sous Grégoire XVI, ne sont pas sortis de rien. Il y a, à côté des gagnants de la Restauration, il y a tout un tas de perdants qui restent présents. Et notamment dans la noblesse italienne, dans la bourgeoisie, il y a tout un tas de gens qui considèrent que le retour au modèle de gouvernement antérieur et pontifical n'est pas satisfaisant. Donc je pense que cette période troublée, compliquée, où tout n'est pas en blanc et en noir, a considérablement posé les bases de toutes sortes de transformations qui ne surviendront que progressivement au cours de la fin du premier 19e siècle et du pontificat de Pie IX, bien sûr.
Est-ce qu'on sait comment Pie VII personnellement a vécu cette période et ce retour?
J'ai le sentiment qu'il a vécu ce retour, il le dit d'ailleurs dans l'édit de mai 1814, comme une preuve de la préscience divine et en réalité comme une preuve de l'action de la Providence dans l'histoire, en quelque sorte. Du reste, je crois qu'on ne fait pas assez référence au fait que pour lui, un des grands acteurs méconnus de ce mouvement, c'est la Vierge Marie. Il y a diverses gravures qui le représentent dès 1809 en train de prier la Vierge Marie, la Vierge des douleurs. Et parmi les premiers actes qu'il fera, c'est de couronner trois images de la Vierge, une à Savone, une à Ancône, une à Cézanne dans sa patrie, pour les remercier de l'aide, en quelque sorte, qu'elle lui avait apportée pendant ses tribulations, ses 5 années de tribulation. Et pour commémorer son entrée triomphale à Rome le 24 mai 1814, le pape instituera la fête de Marie Auxiliatrice. Et puis en septembre, il étendra au monde entier le culte de la Vierge des douleurs, qui auparavant existait essentiellement dans le royaume de Toscane.